Salut, c'est Alexis et vous écoutez le podcast de Contournement sur les technologies no-code. Pour ce 103e épisode, j'ai le plaisir de recevoir Aude Pilleron, la cofondatrice de PandaSuite. C'est un app builder qui existe déjà depuis de nombreuses années. Vous allez voir que c'est aussi une belle aventure entrepreneuriale, pleine de challenges. Et donc, on vous explique tout ça dans l'épisode. Petite note, il y a eu un petit problème technique au début avec le matos qu'on a utilisé pour l'enregistrement. Donc pendant quelques minutes, vous verrez que le son de mon micro n'est pas très bon. Ne vous inquiétez pas, ça se rétablit par la suite. Allez, je vous laisse avec l'épisode. Salut Aude, bienvenue sur le podcast de Contournement. Merci de te joindre à moi pour cet épisode. On va parler de PandaSuite, qui est donc un app builder, un constructeur d'applications. Je te laisserai nous dire comment vous décrivez ça, que tu as cofondé. On avait fait une démo il y a quelques temps dans la communauté de Code France, je me souviens. J'ai l'impression que ça a beaucoup évolué depuis, parce que je suis retourné voir un petit peu... Alors, j'ai pas eu le temps de vraiment me plonger dans l'outil, mais j'ai regardé un petit peu des tutos, etc. ce matin. Et donc, c'est intéressant, j'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup d'évolution. Donc voilà, j'ai hâte que tu me dises tout ça. On va en parler, un petit peu les challenges, qu'est-ce que c'est aussi. C'est quand même un sacré projet d'essayer de... construire un créateur d'application. Mais avant ça, est-ce que tu peux te présenter et me dire un petit peu comment tu en es arrivé là?
Eh bien déjà, merci à toi pour l'invitation. Je suis très contente d'être là et de pouvoir échanger avec toi. Donc je m'appelle Aude, je suis la cofondatrice de PandaSuite. Et pour te raconter un peu mon parcours, c'est vrai que moi j'ai fait des études en communication, en marketing à l'Université Paris-Dauphine. Et le début de ma carrière était plutôt en agence de communication. J'ai travaillé pour le groupe Havas. Et j'ai travaillé en communication interne et notamment en gestion de la transformation. Donc rien ne me prédisposait, entre guillemets, à arriver à prendre des suites et voilà. Mais en tout cas, ça s'est fait par l'objet d'une rencontre. J'ai d'abord rencontré Benjamin, puis Nicolas, qui étaient effectivement des développeurs, qui avaient une idée en tête, la volonté de créer ce type d'outils. Et moi, ça intervenait à un moment où j'étais à la recherche d'un projet. J'avais envie vraiment de mettre toute mon énergie et vraiment de construire un produit, de le faire évoluer, de m'y consacrer à 2000%. Et ensemble, on a commencé à travailler avec cette idée, effectivement, de créer un outil qui permettrait de justement donner simplement vie à des idées au travers de produits digitaux. Et donc, c'est là que PandaSuite est né.
On va en reparler plus précisément, justement, de cette genèse. Mais est-ce que c'est quelque chose qui t'avait manqué? Est-ce que c'est quelque chose que tu t'es dit, justement, quand tu travaillais dans la com, tu sais, j'aurais bien voulu avoir cet outil-là, ou est-ce que...
C'était pas forcément... c'était plutôt un besoin en termes d'utilisateur. C'est-à-dire que le projet est né au moment où l'iPad commençait à exploser. Et c'est vrai qu'en tant qu'utilisateur d'iPad, on s'était fait le constat de se dire que y avait des applications qui étaient chouettes. On était assez fans des expériences immersives, interactives, et avec la volonté effectivement de voir plus d'applications qui se créaient comme ça. Donc c'est peut-être plutôt de ce point de vue utilisateur que dans ma vie professionnelle. Dans ma vie professionnelle, c'était plutôt la volonté de se lancer en fait dans l'aventure entrepreneuriale, quoi, d'avoir son vrai produit et de mettre toute son énergie dedans.
Okay. Et dans justement côté dans cette première avant justement PandaSuite, est-ce que tu travaillais justement sur des produits numériques? Est-ce que vous conceviez des sites web? Enfin, il y a plein de choses. La communication, ça peut être assez large. Est-ce que tu avais notamment ou peut-être là où je veux en venir, c'est est-ce que tu avais le contact avec des développeurs? Est-ce que tu as été justement de l'autre côté, tu vois?
Oui, alors effectivement, Havas, c'est une grande agence. Et donc moi, j'étais en tant que consultante, mais je travaillais avec différents professionnels des différents aspects. Donc je travaillais effectivement des professionnels du digital. C'est vrai que moi, j'ai toujours aimé les sujets techniques. Je ne m'y suis pas forcément plongée directement. Moi, ce qui me drivait vraiment, c'était le contenu, l'expérience. Mais j'aimais le digital, j'aimais cet aspect-là dans le sens où il y avait un aspect un peu magique de donner vie à des idées et de permettre, via des lignes de code, via des aspects un peu plus techniques, de donner vie à des idées qu'on avait en tête.
C'est intéressant parce que cette notion de contenu, je pense que c'est quelque chose qui va revenir dans les usages de PandaSuite, etc. Bon, on va revenir là-dessus. Ok, c'est hyper intéressant. Est-ce que toi, est-ce que tu sais coder? Est-ce que tu as appris, tu as fait des techniques, tout ça?
Alors moi, je pas en tant que telle, j'ai appris au fur et à mesure, je ne vais pas me reconnaître en tant que codeuse, mais voilà, il a fallu que j'apprenne des bases, il a fallu que je me forme, et c'est un peu mes cofondateurs qui m'ont formée au fur et à mesure et qui m'ont dit « tiens, tu devrais regarder ça, tiens, tu devrais te former à ça », et aussi pour comprendre leur langage et voilà, et se plonger dans ce bel univers.
Ok, et pas du tout dans ton background.
Non.
Bon, j'aime bien aussi poser cette question parce que ça permet de voir un petit peu, tu vois, où est-ce qu'on va, et c'est important parce que dans les gens qui utilisent les outils de code. Et ça, d'ailleurs, c'est vraiment quelque chose qui m'intéressera de comprendre un petit peu qui sont vos utilisateurs et tout, tu vois, mais il y a beaucoup de gens qui n'ont pas du tout de background technique. Et ça, c'est un enjeu, j'imagine, qu'on doit prendre en compte quand on crée un outil de code, quoi.
Ok, on a eu besoin d'une petite pause technique pour maîtriser un petit peu ce super studio d'enregistrement. Ouais, c'est clair. Bon, désolé. Du coup, on parlait de contenu, on parlait de pendant la suite. Bah écoute, allons-y, vraiment, parlons un petit peu de la genèse. Juste, tu l'as évoqué, mais comment t'as rencontré les cofondateurs ?
Par des relations communes. Voilà, on est devenus amis avec Benjamin et après avec Nicolas. Okay. Voilà.
Et eux avaient déjà l'idée ou vous avez décidé ensemble de cette idée ?
Eux, ils avaient déjà, ils avaient déjà une première idée en tête, sachant qu'ils avaient travaillé sur un projet d'album photo. Avec la volonté effectivement d'avoir un éditeur et après de travailler avec un imprimeur pour pouvoir imprimer les albums photos. Et bon, voilà, les aléas de l'entrepreneuriat et tout ça, ils sont recentrés vraiment sur l'éditeur. Et donc quand on s'est rencontrés, ils avaient cette idée effectivement de créer un outil pour justement travailler et créer des expériences interactives. Donc c'est à ce moment-là où eux, avec leur bagage technique, ils recherchaient quelqu'un qui avait un bagage plus marketing et un autre aspect sur le produit pour se lancer dans l'aventure.
Ça, c'est important. Hein. C'est quand il n'y a que des techniciens à bord, c'est en général. Ça peut donner des très beaux produits, mais dont personne n'entend jamais parler ou pas toujours bien en lien avec la communauté, enfin, les utilisateurs, etc. Bon, ça, c'est des choses où on va revenir un petit peu, justement, parce que j'ai envie de comprendre, tu vois, un petit peu comment vous avez fait. Mais avant ça, rentrons vraiment, essaye de nous décrire. Déjà, comment tu décris pendant la suite en une phrase ou enfin non d'ailleurs en autant de phrases que tu veux mais comme si tu disais je sais pas à tes parents par exemple tu vois, ou à mes parents tu vois.
C'est un outil visuel qui permet de créer des applications et des supports numériques sans avoir de connaissances techniques. Donc ça prend la forme d'un studio de création qui est sur l'ordinateur et dans lequel je vais venir importer mon contenu, mes textes, mes images, mes audios, il y a du multimédia aussi, il y a un ensemble de composants qui vont venir permettre de rajouter de l'interactivité et créer un support qui soit interactif et adapté à son contenu. Et après, on peut le déployer sur tous les écrans.
Pas mal. ça se voit que ça, c'est toi qui t'occupes de la communication. Non, bah, écoute, c'est hyper clair. C'est quoi les... j'essaie de... En fait, j'ai envie de poser plein de questions d'un coup parce qu'en fait, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de comprendre, tu vois, comment vous avez fait vos choix et tout. Mais je pense que justement, avant de parler de ça, il vaut mieux parler de comment vraiment, tu vois, ça, quel est quand une personne arrive, tu vois, un nouvel utilisateur ou une utilisatrice arrive, se connecte. Comment ça se passe, quoi? Déjà, il y a une petite spécificité, c'est que vous, c'est un logiciel qu'il faut installer, par exemple.
Oui.
Pourquoi? Comment? Est-ce que tu vois,
c'est de par l'interface, effectivement, de par les spécificités, les composants, voilà, toute notre architecture et nos choix techniques ont été faits là-dessus. C'est vrai qu'on a choisi un outil à installer, d'autant plus en plus que c'est un compagnon du quotidien. Il y a quand même pas mal d'aspects vraiment aussi multimédia dessus, donc on voulait un outil qui soit simple d'utilisation et vraiment puissant. Donc effectivement, l'utilisateur, ce qu'il fait, bah, c'est déjà qu'il peut créer un compte gratuit sur notre site. On a voulu avoir un aspect vraiment gratuit pour justement permettre à l'utilisateur de se faire son propre choix et de lui-même créer son support, son application, son support interactif, d'aller suffisamment loin pour se dire est-ce que c'est le bon outil, le montrer. Voilà, donc d'avoir un compte gratuit qui permette de faire tout ça et de pouvoir expérimenter. On a quand même pas mal d'étudiants aussi qui nous utilisent, donc on voulait avoir un outil qui soit adapté à ses usages. Et donc voilà, effectivement, il va télécharger l'application Pandasuite Studio sur son ordinateur. Et ensuite, bah voilà, il va choisir le type d'application qu'il souhaite créer. Alors, application au sens large chez nous, parce que ça peut être effectivement une application mobile, une web app. Ça peut être aussi une application pour tablette ou pour borne. On a pas mal de sujets pour Windows où bah voilà, je vais créer directement pour une borne que je vais mettre dans un salon, un événement. Donc voilà, et après, l'utilisateur importe ses contenus, il vient avec ses images, ses vidéos, son texte. Et la spécificité vraiment de Pandasuite, ça va être la liberté de création. On met ça vraiment en avant. En fait, on peut créer vraiment tout sur mesure, à la différence d'autres outils qui ont peut-être plus des briques préétablies qu'on vient connecter les unes avec les autres. Nous, on voulait, à la manière des Lego, avoir effectivement des... Alors nous, ça va être des composants suffisamment flexibles et puissants qu'on puisse connecter les uns avec les autres. Et voilà, que ce soit vraiment le projet, que ce soit la créativité qui permette de donner vie à des projets extrêmement différents. Ce qui permet qu'aujourd'hui, via un seul outil, on peut aussi bien faire une application mobile qu'on va mettre sur l'App Store, un audio guide pour un musée par exemple, faire une borne interactive pour un salon pour mettre en avant sa dernière innovation produit, faire de l'e-learning, faire un contenu interactif, un quiz pour mettre sur un site. Voilà, d'avoir une seule plateforme pour tous ces usages.
C'est vraiment du logiciel au sens large, quoi, quelque part. Quoi. C'est vraiment cette idée de... Et ça, je trouve ça assez chouette, parce que c'est de la liberté, quoi, tu vois, quelque part. C'est vraiment ça, pour moi, la différence entre les outils no-code de nouvelle génération, si j'ose dire, et ce qui pouvait exister avant. Je sais pas, quand les gens, tu vois, ils nous demandent « Est-ce que WordPress est un outil no-code ou pas ?» Bah, je sais pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que WordPress... Tu peux pas faire ce que tu veux vraiment avec. Tu peux faire des super sites, c'est pas. Mais voilà, il y a vraiment des limites. Et alors du coup, par exemple, si j'essaie de m'imaginer visuellement le studio, enfin, si je veux mettre des composants, c'est du glisser-déposer. Si je mets un truc, ça va rester là où c'est. Enfin.
Exactement. Ouais, ça va être du glisser-déposer. Ça va être, je vais avoir ma bibliothèque de médias. Je vais venir rajouter mes éléments. Je vais utiliser ma souris pour agrandir. Je vais ensuite sélectionner directement. C'est un joli exercice de le faire à l'audio.
J'aime bien.
Voilà. Donc, je vais venir sélectionner mes éléments de l'interface et je vais avoir une fenêtre qui va me permettre de pouvoir rajouter, de définir des actions. C'est-à-dire, voilà, en cliquant ici, il se passe ça. Rajouter des interactivités, les composants. Les composants, ça peut être des composants graphiques, de la pop-up, un lecteur vidéo. Ça peut être des composants système. On va jouer avec des capacités système comme l'accéléromètre, la reconnaissance d'image, la secousse aussi. Et il y a aussi des composants plus data, l'authentification, la connexion à des API. Des choses comme ça.
Ouais, ça c'est un truc qu'il faut bien, enfin que tu as dit, mais sur lequel j'ai envie d'insister, c'est ce côté vraiment natif, quelque part, c'est-à-dire la plateforme. D'ailleurs, c'est peut-être aussi pas forcément une limite, mais c'est du coup, il faut faire un choix, quoi. C'est-à-dire quand j'arrive dans Pandasuite, je dois dire si je veux faire une appli mobile ou une appli web, par exemple, ou non, ou pas.
Pas forcément. On a une fenêtre qui invite effectivement à choisir, qui permet d'aider après nous le parcours utilisateur en fonction des choix, mais ce n'est pas un choix définitif. C'est-à-dire que ce qu'on fait comme choix, c'est à la base de choisir le ratio de référence. Donc je vais choisir un format plutôt landscape, portrait, je vais activer le responsive, et après je vais pouvoir le décliner avec différents layouts, mais c'est plus ça. Après, le projet est automatiquement converti dans tous les différents langages. Et aussi, une importance pour nous, c'était le côté offline. On voulait effectivement que les applications soient disponibles offline pour justement répondre à tous les usages. On a le cas, et là on va bientôt publier sur notre site un use case d'un utilisateur où c'est le ministère de la Santé au Brésil qui crée des applications pour les médecins pour aller au fin fond de l'Amazonie. Bah là, c'est sûr qu'il faut du offline pour pouvoir aller sur le terrain.
Ouais, alors carrément, et ça tu fais bien encore une fois aussi d'insister là-dessus, quoi. De toute façon, je pense que tu sais que c'est un peu une force ou une caractéristique, parce que c'est vrai que c'est... Franchement, je crois que j'ai eu la question pas plus tard que hier ou avant-hier, vraiment de ouais, comment est-ce que je peux faire une appli offline et tout. D'ailleurs, je suis désolé, j'ai pas pensé à vous, tu vois, comme quoi j'ai pas assez, mais maintenant, tu vois, qu'on a eu cet échange, ça sera le cas. Mais c'est pas le... On vit dans un monde hyper connecté. En tout cas, nous, dans nos vies comme ça d'occidentaux, c'est même pas qu'une question d'Occident, hein, d'ailleurs, mais c'est aussi une question de, j'allais dire, enfin, pour compléter, on va dire d'occidentaux pas pro, tu vois, enfin, je sais pas, c'est formulé bizarrement en termes de persona, mais voilà, mais c'est tout de suite, dès que t'arrives sur des gens qui sont plus pro, qui sont sur des terrains, qui sont pas en ville, qui sont pas travaillent sur des chantiers, des choses comme ça, ou alors bah, dans d'autres régions du monde, on n'est plus du tout dans cette hyperconnectivité. En fait, on a tendance à l'oublier. Et ça, c'est, je le dis même pour moi comme un mémo, parce que des fois, quand les gens ils me disent, bah oui, moi j'ai envie de faire une appli hors connexion. Alors il y a des gens, ils le font. C'est pas pour les bonnes raisons, quoi. Mais tu vois, il y a vraiment ce truc de
Nous, je pense que c'est venu aussi de... En fait, très rapidement, quand on a commencé à travailler sur l'outil, on a travaillé directement avec des partenaires et on a travaillé beaucoup avec des acteurs culturels, des musées. Et là, c'était, bah voilà, j'ai un musée et j'ai pas de connexion à l'intérieur de mon musée. Donc ça, voilà, concrètement, il a fallu répondre à ça. Et là, en ce moment, beaucoup, j'en parlais tout à l'heure, mais les bornes, les salons, c'est typiquement le type de lieu où, bah voilà, t'as pas de connexion. Donc quand tu te balades, effectivement, dans Paris avec ton téléphone, ça va, mais dès que tu arrives dans des cas un peu particuliers, là, la connexion est un vrai enjeu. Et d'autant plus maintenant, j'y reviendrai, mais pendant la suite, en début d'année dernière, a rajouté la brique data, donc qui dit connexion API, qui dit effectivement gestion des données, comment on fait pour récupérer tout ça. Donc voilà, c'est un enjeu notamment des applications qui sont plus dynamiques.
Et alors, justement, donc, tu vois, c'est alors juste pour finir sur ma question de tout à l'heure, parce que je ne suis pas sûr de... Tu vois, est-ce que par exemple... tu fais parce que tu vois on a beaucoup en tête tu vois les usages de Bubble etc donc de faire cette question du responsive tu vois de dire parce que on veut faire que notre site web enfin notre application web soit aussi disponible sur qu'elle fonctionne en tout cas sur un téléphone et c'est enfin d'ailleurs c'est pas toujours pertinent hein, tu vois mais vous du coup comment vous traitez ça est-ce que vous c'est un peu l'inverse c'est plutôt on crée pour un support ou
On va créer en fonction d'un layout, effectivement, qu'on va choisir. Donc, je vais partir sur mon téléphone. Je vais activer le responsive. Donc, ça va faire en sorte que ça s'adapte effectivement sur toutes les tailles de téléphone et sur tout ce type d'orientation. Par contre, à partir du moment où j'arrive sur un autre type de téléphone où j'ai une consultation qui sera peut-être plus adaptée sur du paysage et je vais tourner mon téléphone, là, nous, on a ce qu'on appelle des layouts qui est la possibilité de voilà, gérer différentes mises en page en fonction... Donc, on a un peu les deux. On a du responsive et de l'adaptative avec les layouts.
Ok. Non, c'est intéressant parce que c'est pas toujours pertinent, tu vois. Enfin, c'est-à-dire, ça dépend aussi du projet. Moi, j'aime bien, je crois, pas mal au fait de se dire... Enfin, c'est surtout vrai pour le contenu, mais je pense que c'est vrai aussi pour les applications. C'est-à-dire que quand tu fais quelque chose pour un canal, enfin, je vais prendre un exemple très bête, hein, mais tu vois, faire une vidéo TikTok, c'est pas la même chose que faire une vidéo YouTube. Et tu prends une vidéo YouTube, tu la mets sur TikTok, ça peut marcher, mais personne va regarder parce qu'en fait, tu suis pas les codes, quoi. C'est un peu pareil, en fait, avec le mobile, je trouve, dans pas mal de... Faire une appli, et je pense encore plus dans le contexte de vos clients, et justement, tu vas nous donner plus d'exemples, tu vois, des gens qui utilisent. Mais voilà, se dire, OK, là, je vais faire quelque chose qui doit fonctionner sur une borne dans un musée. Je veux dire, c'est pas la peine de se dire que ça va fonctionner sur un téléphone.
Tout à fait.
Il y a pas mal de ça, tu vois. Parce que souvent, les gens, je pense, ont envie d'imaginer tous les cas de figure. C'est au cas où, bah bon, bah, tant qu'à faire, si je fais un truc, je veux que ça marche partout. Mais en fait, c'est pas toujours pertinent, quoi.
Oui, et souvent, je vais vouloir changer aussi un peu ma navigation entre les différents supports. Le mobile, je vais vouloir faire apparaître ma petite tab bar sur la tablette, ça va être différent. Donc voilà, il y a toute cette gestion-là où on se dit, bah voilà, si vous voulez un autre type de support, voilà, vous allez peut-être réinterroger les choses, vous allez vouloir montrer plus un contenu différent. Donc vous pouvez le penser à travers les layouts.
Et alors, justement, tu parlais de la donnée. Donc là, on parlait pas mal du côté graphique. Et moi, il y a deux questions. Donc forcément, c'est toujours... Il y a les trois parties, tu vois. Il y a le design, les données et puis la logique, quoi. Et donc, du coup, vous... Donc là, on a parlé du côté graphique et de comment on crée ces interfaces, etc. La donnée, comment c'est géré?
Alors, effectivement, on était rentrés, nous, vraiment par l'aspect graphique. Nous, à la base, ce qui nous plaisait, c'était ces applications peut-être un peu plus statiques, mais où il se passait des choses. Une des applications qui nous servait de base et qui nous avait inspiré à la base, c'était au moment de l'iPad, dont j'en parlais, mais c'était l'application Your Choice d'Al Gore. C'était une application qui sensibilisait sur les enjeux climatiques et je pouvais bouger la tablette, souffler dessus, il se passait quelque chose. Et au final, le fond rejoignait la forme et je comprenais effectivement le message. Donc on est rentré là-dedans, on est commencé par la tablette, ensuite on a décliné, on a fait le mobile, on a fait le web, voilà, on s'est assuré vraiment d'avoir la même expérience sur tous les supports. Et de plus en plus est arrivée cette question de par nos utilisateurs, parce qu'on fait attention à vraiment être à leur écoute et être toujours dans une phase de co-construction avec, en fonction de leurs besoins. Voilà, il y avait de plus en plus ces besoins. Bah tiens, j'ai un catalogue, mais je ne vais pas tout recréer de A à Z dans Point Suite. Ah tiens, j'ai mon système avec une API, comment je peux me connecter. Donc de plus en plus, il y avait aussi beaucoup de logique, vu qu'on est sur de la gamification, on a sur des applications qui sont très ludiques, donc très rapidement, même pour du digital learning, comment je compte des scores, voilà. Donc cette question de la donnée est arrivée de plus en plus présente, et nous, en fait, la manière dont on voulait la gérer, on voulait faire une vraie évolution de Point Suite et surtout gérer la donnée aussi de manière aussi flexible que le reste. Donc en fait, on a géré tout comme une source de données. Et donc, en début d'année dernière, ça fait un an maintenant, joyeux anniversaire, on a développé et on a publié une nouvelle version de Pandas Suite Studio avec effectivement la possibilité de se connecter à une source de données. Donc, la source de données peut être externe. Je peux me connecter via le composant HTTP à une API. Ça peut être via des automatisations. Je peux me connecter avec des webhooks. Je peux utiliser aussi une base de données interne à Pandas Suite pour pouvoir effectivement même faire des variables. Mais voilà, on voulait que toute cette flexibilité qu'on avait déjà avec tous les composants de Pandas Suite, on puisse la retrouver aussi via la donnée, via la gestion de la donnée dans l'interface.
Alors donc pour bien expliciter, alors premier truc, c'est la base de données interne. Donc ça, c'est intégré dans l'outil, c'est-à-dire je peux déclarer à quoi ça ressemble. Est-ce que c'est un petit peu comme un espèce de mini Airtable ou est-ce que pas du tout, est-ce que c'est...
Ça va être en beaucoup plus simplifié, c'est-à-dire que voilà, ça va être vraiment, je vais pouvoir avoir un schéma assez libre pour pouvoir créer ma propre structure de données avec des propriétés, des types de propriétés et pouvoir les organiser comme je veux. Au niveau de l'interface de création, je vais pouvoir choisir ma source de données. Donc, cette source de données peut être cette base de données-là ou effectivement peut être une source de données externe via un composant HTTP ou via différents composants qu'on a à disposition avec des exemples comme Airtable, effectivement.
Et ça, c'est justement pour le... Pardon, désolé pour les questions un peu techniques, mais tu vois, ça m'intéresse forcément, tu vois, c'est un peu les trucs que les gens aussi sont curieux, je pense. Tu vois, par exemple, donc, pour Airtable, est-ce que vous avez un composant vraiment natif, en quelque sorte, ou est-ce que c'est à travers l'API, justement
À travers l'API, voilà. Ça fait partie des évolutions qu'on envisage. Pour l'instant, c'est via l'API. Voilà. Et ça fait partie des réflexions qu'on a, effectivement, sûr, pour les principales sources de données.
Après, j'imagine que c'est un peu... on en reparlera, justement, un petit peu comment vous suivez un petit peu les avis de vos utilisateurs, etc. Mais moi, si je me place de votre point de vue, j'imagine bien que c'est difficile. Y a tellement de sources de données possibles. Et c'est ça qui est... Moi, c'est un de mes chevaux de bataille, je sais pas. Après, c'est que les gens apprennent à utiliser les API, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment parce que c'est un standard... Pour vous, c'est facile à mettre en œuvre. Enfin, facile. C'est un travail déjà de mettre en œuvre un composant HTTP, comme tu dis, qui permet de se connecter à des API. Donc ça, vous, c'est votre travail, faire que ce soit le mieux designé possible. Et après, aux gens de comprendre comment ça fonctionne pour se connecter s'ils veulent à Airtable, s'ils veulent à des trucs exotiques, s'ils veulent à, je ne sais pas, une API Open Data proposée par le gouvernement, enfin, tu vois, des choses comme ça. Et ça, c'est hyper important. Et parce qu'en fait, vous ne pourrez pas faire tous les connecteurs du monde de toute façon. Et après...
C'est à peu près ça le message, effectivement. Donc on se dit, à partir du moment où on fait du standardisé, après on explique et on fait des cas pour les différents outils. Il y a Airtable, il y a Xano qui est top aussi. Voilà, il y a plein d'outils comme ça auxquels on a envie de se connecter. Après, je te rejoins, effectivement, à partir du moment où on arrive sur ces sujets-là, je pense que c'est important pour tout le monde de comprendre ce que c'est qu'une API, enfin en tout cas toutes les personnes qui vont les manipuler, et comprendre la structure de données. Parce que voilà, on peut essayer de commencer à tâtonner et tester des choses et après très rapidement de se rendre compte des répercussions, donc autant voilà, se former et avoir une bonne compréhension de ce domaine-là pour faire les choses proprement et gagner du temps.
Je rebondis sur quand tu dis se former, justement, comment vous accompagnez les gens, vous créez du contenu, il y a des tutos, comment ça se passe cette phase un petit peu justement d'aider les gens à bien se servir de Pandas Suite?
Alors effectivement, on a toute une base de connaissances, on a des articles en français et en anglais qui sont sur notre centre d'aide, on a des tutos sur YouTube, voilà, sur les fonctionnalités spécifiques où vous retrouverez ma voix avec mon French accent pour raconter aux utilisateurs. Et voilà, et après on a un canal, on a une gestion client, enfin voilà, on a un formulaire et on est vraiment là à leur écoute. On passe beaucoup de temps effectivement à accompagner les projets, voilà, parce que c'est important notamment quand on se lance sur un nouvel outil. Donc on donne vraiment toute la base pour que les utilisateurs puissent monter en compétence. On a des templates aussi, voilà, et en plus on répond aux questions et on accompagne les différents cas d'utilisation.
Et alors sur la dernière brique, pour revenir à ça, donc le côté logique, comment ça se passe? Attends, peut-être d'ailleurs, non, j'ai oublié une question. Désolé, je reviens, je pars dans tous les sens, mais c'est pas grave. Sur les bases de données, est-ce que, tu vois, parce que tu soulignais le côté offline, tu vois, qui est toujours important, est-ce qu'il y a, par exemple, la base de données de Panda Suite, enfin interne, est-ce qu'elle fonctionne aussi offline ou c'est Ouais, ok. Ouais. C'est embarqué dans l'application, quoi. Parce que les API, j'imagine que bon, bah là, il faut de la connectivité, quoi.
Après, on fait une gestion de mise en cache et on. Ok. Ouais, il y a tout ce travail-là. Après, c'est Benjamin qui en parlera le mieux et un jour, ça pourrait être intéressant que vous en discutiez ensemble. Ouais. Mais voilà, il y a tout cet aspect-là qui a été pris en compte. Voilà, c'est vraiment au cœur de notre produit. Donc, c'était important aussi au moment où on gère la data de pouvoir la proposer offline aussi.
Ok. Non, hyper intéressant. Ouais, du coup. Je me suis dit, est-ce que je vais la coincer là-dessus ou pas?
Non,
c'est non, mais tu vois, c'est. Je pense qu'à partir du moment où tu vois, j'imagine, vous avez décidé d'avoir cette fonctionnalité offline, vous êtes obligé d'aller jusqu'au bout, quoi.
C'est ça.
Pas faire à moitié, quoi.
Exactement, ouais.
C'est intéressant, en même temps, c'est un sacré challenge.
C'est un challenge, parce qu'après, il y a effectivement la gestion de l'espace disponible, comment s'assurer que l'expérience utilisateur derrière elle soit bonne. Enfin voilà, ça pose d'autres questions, d'autres interrogations.
Ouais. Ouais, tu vas tomber sur des gens qui vont venir avec 100 millions de lignes, qui veulent faire
des... C'est ça, beaucoup de médias, nous, c'est beaucoup de vidéos, beaucoup de...
Très intéressant. Mais justement, avant que tu nous en dises plus un peu sur les usages, cette dernière brique, du coup, un peu de logique, est-ce qu'il y a des possibilités de dire quand j'appuie sur tel bouton, ça met telle chose dans la base de données, des choses comme ça, enfin...
C'est ça, bah, en fait, on va pouvoir créer, notamment via cette base de données PandaSuite, on va pouvoir créer ses propres variables, hein, c'est vraiment... Et ensuite, on a un composant de conditions qui permet, avec n'importe quelle donnée, de pouvoir déclencher et d'évaluer les choses. Donc, pouvoir dire, bah, tiens, si le score est égal à 3, alors j'ouvre tel pop-up, et mettre en place la structuration et cette logique-là.
Et est-ce que potentiellement, par exemple, je creuse un petit peu, est-ce que si je peux appuyer sur un bouton et, par exemple, faire un appel à une API pour envoyer des données à une API?
Tout à fait, ouais.
Donc, il y a plusieurs actions comme ça qui sont possibles.
Tout élément graphique peut être déclencheur d'une action. Enfin, tout élément même non graphique, tout élément de... Tout composant, tout objet de PandaSuite peut avoir ses propres actions, ses propres événements déclencheurs. Et voilà. D'où ce côté Lego, imbrication. On a des composants de synchronisation qui permettent de synchroniser plusieurs composants ensemble. Par exemple, on reste sur du graphique, mais par exemple, un effet parallaxe qui était très à la mode dans le web, en fait, ça va être pour nous deux zones de défilement qui sont synchronisées ensemble. Donc en fait, ça va être deux composants, un composant synchronisation, mais ce même soit un composant synchronisation va permettre de synchroniser un audio avec par exemple une zone de défilement et automatiquement, en fonction de l'audio, ça va... Donc en fait, ce côté très standardisé des choses, ça fonctionne aussi bien sur les composants, les actions, voilà. Tout est imbriquable les uns dans les autres, d'où la multiplicité des usages.
Ok, hyper intéressant. Eh bien, écoute, justement, venons-y. Alors, tu nous disais, donc il y a pas mal d'exemples que tu as cités qui étaient vraiment autour de la culture. Est-ce que tu veux nous donner des exemples très, très concrets, tu vois, je sais pas, un musée ou des choses que...
Voilà, peut y avoir le côté application mobile, l'audio guide, pour pouvoir accompagner les visiteurs, remplacer effectivement le traditionnel audio guide par vraiment l'application mobile que j'ai sur mon téléphone ou directement sur l'appareil, les appareils du musée. Ça peut être des bornes interactives installé dans le musée.
Sur les audio guides, désolé, je t'interromps.
Je t'en prie.
C'est un truc que j'ai j'ai une révélation il n'y a pas très longtemps, j'en ai parlé dans un épisode du podcast, mais tu vois, j'avais jamais pensé à aller, quand j'étais à Athènes, j'avais jamais pensé à aller regarder sur Internet s'il y avait un audio guide que je pourrais installer sur mon téléphone. Tu vois, moi, dans ma tête, c'est arrivé à la caisse, tu devais payer un truc, on te donnait un petit device, tu vois, je sais pas comment dire, un petit appareil, tu vois, enfin, j'étais bloqué là-dedans, ça montre peut-être que je vais pas assez souvent au musée. Et en fait, j'ai trouvé ça, franchement, j'ai trouvé ça génial, quoi. Enfin, tu vois, du coup, j'ai fait toute une visite avec mes écouteurs et tout, je trouvais ça trop confortable. À quel point c'est complexe, tu vois, je sais pas si j'imagine, alors, pas pour le Louvre, tu vois, mais si j'ai un musée, mais si je voulais faire l'audio guide d'un musée, un petit musée, tu vois, avec PandaSuite, c'est quoi la complexité, tu vois, un peu, c'est...
Bah, ça va être assez simple. Après, tout dépend effectivement de ce que tu veux. En général, l'audio guide, c'est pensé pour être simple. Donc, en fait, ça va être un principe de fiche avec de l'information textuelle, visuelle et éventuellement de l'audio. Après, l'enjeu, c'est savoir comment est-ce qu'on fait que l'utilisateur ait accès à la bonne information au bon endroit. Soit c'est un menu qui permet effectivement à l'utilisateur ou alors une carte pour dire, voilà, je suis là. Nous, ce qu'on avait vu et mis en place, c'était qu'il y avait aussi beaucoup d'utilisation des beacons, ces petits capteurs de proximité qui fonctionnent via Bluetooth, donc qui étaient installés dans les musées. Nous, on est compatibles. Et donc, ça faisait que quand je rentrais dans la salle ou dans le champ, le beacon était détecté et j'affichais la bonne information. Aussi, on a eu pas mal de sujets là-dessus, la reconnaissance d'images. On avait notamment une application qui était à la Cité de la Mode et du Design, c'était une application de photographe. Là, on pouvait scanner directement la photo en face de nous pour accéder au contenu. Il y avait du contenu audio, quoi que ce soit.
C'était pas un QR code, quoi. C'est genre, tu prenais en photo le...
Exactement, enfin, la reconnaissance d'image, c'est le même principe que le QR code, sauf que, en fait, c'est n'importe quelle image que tu choisis. Et il n'y a pas cette prise de photo, c'est juste ouvre l'appareil photo, il reconnaît sur la technique du template matching, effectivement, le contenu qui est derrière.
Ok, et tout ça, c'était embarqué dans l'application.
Exactement, voilà. Et après, voilà, c'est des contenus assez simples. En général, l'audio guide, voilà, l'idée, c'est vraiment de simplifier l'accès au contenu.
Et donc, moi, par exemple, admettons, j'ai enregistré tous mes audios pour chaque statut de mon musée. Je les importe,
c'est ça.
Vraiment les fichiers en tant que tels, quoi. Et puis après, je dis, par exemple, je fais des fiches.
C'est ça. Tu peux faire un principe de fiche, template, voilà, tout à l'heure avec ton texte, avec ton audio. Tu peux même créer un player sur mesure, donc avec tes boutons, play, pause, et mettre un petit texte en dessous, et voilà.
Ok. Non, j'ai pas forcément une idée de faire ça, mais je trouve ça hyper intéressant parce que ce que je vois, c'est que moi, le truc que j'avais acheté à Athènes, tu vois, par exemple, c'était pas le truc du musée, quoi. C'était un truc, je sais pas, enfin, j'étais passé par Get Your Guide et puis ils m'avaient redirigé. Au début, je croyais que j'allais acheter un truc de Get Your Guide, qui est le. Mais en fait, ils m'ont redirigé vers une appli de, je sais pas, de gens random, tu vois.
Ouais.
Enfin, je sais pas qui c'est. Et j'aurais payé 10 balles et franchement, c'était très bien fait, tu vois. Mais je me dis, tu vois, c'est-à-dire que, en fait, tout le monde potentiellement peut faire ça, quoi.
C'est ça. C'est ça. Après, on n'a pas que des musées ni d'instituts culturels. On va beaucoup bosser avec les entreprises et des agences de communication. Il va y avoir la digitalisation de supports existants. Il va y avoir des apps internes pour intégrer les nouveaux collaborateurs, par exemple. Ça, c'est un gros sujet qu'on avait. On va avoir des apps catalogues, produits pour les commerciaux sur le terrain. On va avoir du digital learning, parce que souvent, quand on dit e-learning, il y a des plateformes e-learning existantes, mais avec des contenus de formation assez standardisés. Voilà. Donc nous, on va pouvoir aller plus loin vers du serious gaming, des environnements un peu plus immersifs. On va avoir ce que je te disais, pour des salons, pour des événements, des manières de mettre en avant des innovations produits et des contenus, des brochures interactives, du magazine, enfin voilà.
Et du coup, juste par exemple, si je prends cet exemple-là, parce que c'est lié un peu à ce que je voudrais aborder ensuite, mais c'est que quand vous avez eu, par exemple, tu vois, c'est une demande qui n'est pas du tout commune, j'ai envie de dire. Enfin, si on prend dans l'absolu, tu vas par exemple te faire une brochure interactive. Tu vois, donc j'imagine peut-être, je sais pas, je vais dire une bêtise, ça se trouve c'est pas possible, mais je sais pas qu'il y a un peu un truc, genre t'as l'impression de tourner une page. Je ne sais pas, par exemple, ça, c'est quelque chose que vous faites ou pas.
On n'a pas l'effet flip, okay, mais ouais. Tu peux avoir la navigation magazine qui est au swipe de passer
voilà,
d'un écran à l'autre.
Voilà, ouais. Sans l'effet visuel, mais bon, un peu ce truc-là. Et donc ça veut dire que vous l'avez développé, par exemple, la première fois qu'on vous l'a demandé, ou est-ce que vous l'aviez en tête parce que vous avez dit, de toute façon, nous, on va attaquer la culture. Tu vois, enfin, tu vois ce que je veux
en
dire.
En fait, nous, on réfléchit à chaque fois pour faire des développements qui servent à tout le monde. Donc, l'idée, par exemple, du flip, cet effet de page qui tourne ne nous paraissait pas indispensable. On pensait que juste un swipe, ça pouvait aller à différents utilisateurs qui faisaient soit de la présentation interactive, soit du magazine, soit du... donc voilà, on est guidé par cette volonté de standardiser, d'avoir des fonctionnalités qui s'adressent à tout le monde et qui vont dans le sens d'une expérience interactive, ludique, enrichie, qualitative, voilà. Ça va être ça vraiment qui va nous guider. Donc, on va écouter les retours utilisateurs. Et après, on ouvre la porte. Hein. Il y a des composants custom qu'on peut créer sur mesure. On peut, enfin voilà. Donc, il y a des choses que les utilisateurs peuvent utiliser et créer par eux-mêmes. Mais en tout cas, ce qui est mis par la plateforme, c'est vraiment des choses qui nous paraissent essentielles dans le sens de l'histoire.
Ok. Non, c'est hyper intéressant. D'autres exemples, est-ce qu'il y a une question que j'aime bien poser aux gens qui font des outils, c'est est-ce qu'il y a déjà eu des usages que vous attendiez pas ? Tu vois, est-ce que des trucs, vous avez été surpris par des utilisateurs justement de Panda Suite ?
On est très régulièrement surpris. Okay. On est très régulièrement surpris dans le sens où il n'y a pas deux manières de... Enfin, il n'y a pas une seule manière de créer un projet avec Panda Suite. Même dans la structure, voilà, il y a des gens qui nous montrent les projets qu'ils ont réalisés dans Panda Suite et vraiment, on est complètement impressionnés. C'est souvent quand on met à disposition un nouveau composant que voilà, on découvre des nouveaux usages. La reconnaissance d'image nous avait pas mal bluffé dans le sens où c'était retrouvé dans des chasses au trésor, des événements vraiment in situ assez rigolos. Non, il y a des projets qui nous ont plus touchés que d'autres. Je pense à un projet qui date maintenant d'il y a quelques temps, mais qui s'appelait L'errance de Teufel. C'était l'histoire d'un collectif. Ils ont monté un film. C'était l'histoire de Teufel. Et ça se passait dans les docks du Nord. C'était un film en noir et blanc. L'histoire d'un personnage qui errait, quoi. Et en fait, ils ont voulu créer le roman interactif et l'histoire interactive déclinée de ça. Et reproduire ces mêmes codes, cette notion d'errance, de se perdre, avec des expériences qui se passaient au fur et à mesure. Et donc, il y a une application qu'ils ont créée. Et ce qui est drôle, c'est que l'utilisateur qui a créé cette application, en fait, il a construit en découvrant Pandasuite. Et voilà. Et en fait, ce qu'il a aimé dans Pandasuite, c'est il avait des séquences d'images, il avait... Voilà. Et il se passait toujours quelque chose. Il fallait tourner la tablette. Et il y avait cette notion un peu de perte, une perte de repère qu'il a réussi à reproduire en utilisant toutes les fonctionnalités Pandasuite. Et voilà, ça donne une application qui est hyper immersive. On se replonge dans l'univers et il avait vraiment exploité de manière très qualitative les différents composants de l'outil.
C'est génial parce que j'imagine que ça, c'est exactement ce que vous voulez. C'est-à-dire, plus vous travaillez à rendre l'outil libre, comme tu le disais dès le début, plus vous allez pouvoir être surpris.
C'est ça.
Et agréablement surpris, j'imagine. Est-ce que vous avez déjà été désagréablement surpris? Enfin, je sais pas, des gens qui ont fait des trucs bizarres, tu vois.
Après, chacun fait créer ce qu'il veut. Non, pas particulièrement, non.
Justement sur la question un peu des utilisateurs, tu vois, qui sont les gens, enfin tu vois un peu le fonctionnement, tu vois, c'est-à-dire est-ce que vous créez aussi des choses avec Pandasuite, est-ce que tu vois si par exemple un musée vient vous voir, ou est-ce que c'est plutôt des intermédiaires, tu vois, des agences qui elles-mêmes travaillent pour un musée, tu vois un petit peu c'est quoi votre population d'utilisateurs, quoi.
Nous, alors déjà dans les utilisateurs finaux de la solution, il va y avoir des créatifs, des graphistes qui travaillent plutôt l'aspect visuel des choses et à qui manque la brique technique pour donner vie à aller plus loin. Et on va avoir des développeurs, des no-codeurs, voilà, qui ont parfois plus la brique technique et qui justement cherchent des outils pour aller plus vite et pour gagner du temps et pour aller plus loin. Donc voilà, on a ces deux aspects-là. Et après, nous, on travaille... nous, on est vraiment concentrés sur l'édition et le développement de Pandasuite. On est vraiment les éditeurs. Après, on est entouré d'un écosystème de partenaires qui sont des agences, des free, qui connaissent très bien la solution et qui permettent de... s'il y a un besoin, effectivement, de... Tiens, je veux quelque chose en Panda, mais j'ai pas le temps ou l'envie de m'y former. Voilà, c'est des partenaires de confiance vers qui on peut rediriger nos interlocuteurs.
Ok. Avant justement de continuer là-dessus, il y a une question que les gens doivent se poser forcément, c'est combien ça coûte, tout ça?
Alors, effectivement, on a deux modèles d'abonnement. On a la partie création et la partie diffusion. La partie création, c'est je vais utiliser Pandasuite, Studio, et je vais exploiter toutes les fonctionnalités, mais je vais rester dans l'environnement de Pandasuite. Donc, soit j'ai un compte gratuit qui me donne accès à quasiment toutes les fonctionnalités, mais qui me limite à un seul projet, ou soit j'ai un compte pro qui est avec un nombre illimité de projets. Donc ça, c'est quand je vais un peu plus loin, voilà, qui est à 29€ par mois ou 290€ par an. Et après, on a des formules de diffusion, donc où intervient la limite entre création et diffusion, c'est vraiment quand je sors de l'environnement, quand je vais créer, exporter mon IPA, publier sur l'App Store, prendre mon zip ou quoi que ce soit. Et là, j'ai différentes formules en fonction de est-ce que c'est du web, est-ce que c'est de l'iOS, Android, du Windows, voilà. Est-ce que c'est un seul projet, plusieurs projets? C'est à partir de 79€ par mois ou 790€ en paiement one-shot.
Ok. C'est quoi les... Tu vois, l'idéal, enfin, je passe peut-être un peu bête, tu vois, mais un peu le personnel, les gens, les utilisateurs idéaux, un peu, que vous avez envie d'attirer.
Ça, c'est pas tant les utilisateurs idéaux, c'est les projets idéaux, c'est-à-dire, ouais. c'est des projets qui veulent être un peu différents, qui veulent être un peu interactifs, un peu visuels, qui veulent raconter les choses différemment, mais ça peut être très large, hein, ça peut être vis-à-vis des collaborateurs de son entreprise, ça peut être vis-à-vis d'une cible externe, mais c'est plutôt, c'est des gens qui ont de la curiosité, qui ont de l'envie de faire des choses propres, des belles choses. Il y a un aspect très esthétique, très beau, très interactif aussi dans Pandasuite, dans cette volonté de pouvoir tout créer sur mesure. Okay. Voilà.
Et donc, si je pose la question un peu à l'inverse, enfin, ou quel quels sont les trucs que tu penses qui sont pas idéaux, tu vois, même si vous essayez de faire un truc le plus libre et open possible, tu vois, quels sont les use cases qui sont pas très adaptés ou...
Bah, ça va être de faire une marketplace, de faire un Facebook like, de faire un Uber like, voilà, des choses qui sont très, des apps qui sont très centrées autour de la donnée. Dans PandaSuite, ça va être un aspect visuel et donné, voilà. Mais si c'est des sujets qui sont très plateforme de mise en relation avec des chats ou des choses comme ça, PandaSuite sera pas l'outil adapté. Et de toute façon, on va le dire très ouvertement aussi, dès que les gens nous contactent, on leur dit.
Ouais. Moi, je pense qu'il faudrait aussi dire que aux gens qui n'ont pas besoin d'un 15e clone de Airbnb ou de Uber, etc. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Ok. Non, bah écoute, c'est hyper intéressant. Et alors, cette communauté, un petit peu justement autour de vous, d'utilisateurs, d'utilisatrices, comment vous la fédérez, comment vous les interrogez, est-ce que tu disais un petit peu tout à l'heure déjà que vous les impliquez un petit peu dans, enfin, vous écoutez en tout cas ce qu'ils vous disent, est-ce que tu vois, bon, enfin, je vais pas poser toutes les questions en même temps. Déjà, première question un peu sur la communauté, l'animation de la communauté.
Alors, c'est vrai que la communauté, ça a toujours été au cœur et vraiment hyper important pour nous. L'outil, j'en ai pas parlé, mais ça fait quand même quelques années qu'il existe.
C'est vrai, moi, je t'ai pas demandé. Donc, c'est vrai que c'est là où on voit que je suis pas un grand journaliste.
Non, mais il existe depuis 2015. Ouais. Et en 2015, quand on a lancé la bêta, on l'a lancé auprès d'étudiants. C'était vraiment notre cœur de cible et on a vraiment eu à cœur de faire en sorte de. On aimait bien bosser avec des étudiants parce qu'en plus, c'est des profils qui blaguent pas et qui ont tellement l'habitude de switcher entre des différents outils, ils vont pas utiliser le filtre et ils vont dire honnêtement ce qu'ils en pensent et voilà. Donc on a tout ce cœur là. À l'époque, quand on avait des locaux dans Paris, on faisait même des ateliers découvertes tous les mercredis matins. On organisait des petits ateliers de 2 heures dans nos locaux et c'était top parce que ça nous permettait de justement mieux se connaître, prendre le temps, voilà. Bon, après il y a le Covid qui est passé par là et qui a un peu changé les choses. Aujourd'hui, on recentralise encore cette communauté, mais on a à cœur de trouver des moyens, donc ça fait partie de nos axes de réflexion, de décentraliser et qu'on soit pas au cœur et que des utilisateurs entre Panda puissent se parler et puissent le faire. Voilà. Ça fait partie de nos axes de développement et de réflexion importants. Aujourd'hui, c'est plutôt nous qui faisons la mise en relation.
Okay. Et pourquoi le nom d'ailleurs, PandaSuite?
On aime bien le panda, on aime bien tout ce qui est autour du panda. Ça peut être partie d'un attrait personnel. Après, ça nous correspondait bien sur la philosophie qu'on voulait avoir derrière l'outil. On aime le côté force tranquille du panda. Voilà, il y a c'est puissant, mais en même temps, c'est cool, relax et ça va bien se passer.
Ok. Et alors justement, donc. Autre question, un peu plus la question un petit peu product management, tu vois, que je trouve qui est hyper intéressant, parce que c'est un vrai challenge. Enfin, on arrivait à faire justement tout ce qu'on évoque depuis tout à l'heure, avoir un outil ouvert, puissant, dont les gens puissent se servir facilement, mais en même temps qu'ils puissent faire des trucs de ouf avec et tout. Qui c'est qui fait ça déjà chez vous? Est-ce que vous écoutez les gens? Est-ce que vous leur posez des questions? Est-ce qu'il y a même, tu sais, maintenant on voit pas mal d'outils aussi où tu as même une liste, tu vois, où les gens ils votent sur les features qu'ils veulent, enfin les fonctionnalités, pardon, qu'ils veulent, etc. Il y a des gens aussi qui disent ça, c'est une très mauvaise idée d'ailleurs. Enfin, il y a plein de vues en fait un peu sur ce côté-là.
Alors nous, on a effectivement ce type d'outil. Après, on l'a vis-à-vis de l'interne. Nous, on l'alimente, on a régulièrement des retours utilisateurs et on leur demande, mais c'est plus au one-to-one, de nous faire des retours. J'en ai encore eu un ce matin, un utilisateur qui a dit, bah voilà, retour de ma première expérience. Et à partir de là, effectivement, on a nos propres outils internes qui nous permettent de calibrer en fonction effectivement du nombre de demandes et de la pertinence en fonction de la roadmap. Voilà, donc ça c'est une discussion qu'on va avoir très collective, on va avoir entre cofondateurs ça pour réaligner et définir effectivement qu'est-ce qui est le plus important en fonction de notre roadmap produit.
Okay. Je t'ai pas demandé d'ailleurs justement, et ça nous amènera un petit peu sur la dernière partie, combien vous êtes dans l'équipe, enfin, c'est quoi un peu votre structuration et comment ça a évolué?
On est 3 cofondateurs. Et on a après, en fonction des besoins, des stagiaires ou des apprentis voilà, qui viennent accompagner, mais on est une toute petite équipe.
Okay. Et ça a toujours été comme ça, enfin, est-ce que c'est une volonté aussi? Est-ce que c'est, tu vois, un peu c'est quoi vos ambitions?
En fait, on travaille bien ensemble, on se connaît bien, ça fonctionne bien. Et voilà, on avait à cœur d'être indépendants, on est tous passionnés par le produit. On est tous là depuis le début aussi, on voit tous les perspectives qu'il y a derrière, donc c'est un modèle qui fonctionne bien pour nous. On veut vraiment et plutôt travailler ce côté vraiment écosystème avec un petit cœur, concentré vraiment sur le produit avec des gens qui connaissent très bien le produit, qui voilà, et avec plutôt, dès qu'on a besoin de compétences, d'autres compétences, faire appel justement à des compétences externes. Voilà.
Okay. Et ouais, enfin moi je suis complètement aligné, tu vois, avec l'idée de rester petit et tout, je trouve ça aussi bien. Enfin petit d'ailleurs ça veut un peu rien dire, hein, c'est pas de...
En termes d'équipe.
Mais voilà, mais tu sais on a tellement ce modèle de ouais il faut lever des fonds, allez tu vois, c'est court, c'est un peu... Donc ça je pense que c'est pas terrible. Vous avez déjà, vous avez levé des fonds, vous êtes tout bootstrappé comme on dit.
Bootstrappé, ouais.
Cool.
Ouais. Okay.
Non mais je pense que c'est un truc qui est aussi intéressant à partager, tu vois, parce que je pense que ça donne aussi de la perspective aux utilisateurs. C'est pas la...
Je pense que c'est quelque chose qui fait partie de la personnalité de la boîte aussi, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles des utilisateurs nous sont fidèles aussi à travers tout ce temps. Mmh. Derrière le produit, bah, ils savent qu'on est derrière, qu'on les accompagne, y a une relation de confiance qui s'est créée, on se connaît, voilà, et donc ça, il y a un aspect très humain qu'on préserve et qu'on travaille.
Ça peut peut-être permettre aussi, et sûrement que vous n'en abusez pas, mais une certaine indulgence aussi peut-être, tu vois, enfin, une compréhension en tout cas de la part des utilisateurs. Enfin, tu vois, moi, c'est un truc, je pense que vous devez peut-être vivre un peu la même chose, c'est-à-dire que des fois, les gens ne se rendent pas compte, tu vois, qu'on n'est que deux, enfin, trois, on est trois, tu vois, maintenant, enfin... Et donc, ils nous appréhendent un peu comme une grosse boîte, tu vois, et ils nous demandent des trucs. Enfin, tu vois, alors, c'est assez étrange. Tu vois, des fois, on dit, bah non, mais en fait, enfin, non, on est tout petit, tu vois, on ne va pas faire ça, quoi.
Non, mais c'est vrai, il y a des fois où on s'est retrouvé dans des situations où on nous disait, non, mais ça, c'est l'équipe de Paris. Enfin, comme s'il y avait une autre équipe derrière. Non, on est tous là. Après, oui, c'est un peu à contre-courant de certaines boîtes, de la mode, effectivement. Je pense qu'on y revient aussi un peu parce qu'il y a eu tout un Eldorado et que là, on revient à un autre âge. Mais oui, je pense que c'est une vraie force. Et on le ressent en tant que tel.
Bah, j'imagine aussi que ça donne de l'agilité. Enfin, bon, c'est un peu galvaudé comme mot, mais bon, forcément, la prise de décision, vous discutez à trois, bon, bah, c'est mieux qu'une équipe product qui valide, et puis enfin, tout ce truc. C'est beaucoup plus instinctif aussi, peut-être, j'imagine. Vous écoutez, vous dites, OK, on y va, on teste.
C'est ça, ouais.
Alors, c'est intéressant parce que j'avais une discussion il n'y a pas très longtemps avec Benoît Marie de XAR, donc un autre outil, pas du tout le même volet, mais un peu... Et pareil, ils ont eu ce truc où ils ont un peu levé d'argent, ils ont recruté des gens. Et en fait, à un moment, ils se sont regardés avec son associé, ils se sont dit, bah, en fait, non, ça ne nous ressemble pas. Et donc, je crois qu'ils sont passés de 20 à 10.
D'accord.
Et ce n'était pas du tout parce qu'ils n'avaient pas d'argent ou quoi. C'était juste, à un moment, ils se sont dit, bah, ce n'est pas la boîte qu'on veut faire. On préfère être moins nombreux, avoir des gens autour de nous. Voilà, enfin, bon, je ne vais pas trop parler à sa place. C'est une discussion un peu qu'on a eue à Athènes. Mais non, malheureusement, ce n'était pas dans le podcast. Il faudrait que je le réinvite, justement. Mais bon, je pense que là, je vais arriver au moment où je vais pouvoir réinviter les gens, tu vois, pour reparler. Mais c'était un truc qu'ils nous avaient raconté quand on était à Athènes. Mais c'était intéressant, tu vois, justement, comme tu dis, c'est quand même pas mal à contre-courant, quoi. Et bon, enfin, ouais, moi, j'apprécie ça. Donc, c'est un super témoignage. Merci pour ça. Et alors, du coup, un petit peu, bah, justement, le dernier petit sujet qui moi, m'intéresse... sort un peu du cadre, mais du coup, comment vous fonctionnez, donc à trois, donc tu me disais vous êtes complètement remote, un peu les ops, tu vois, un petit peu comment ça fonctionne chez Pandasuite, les outils que vous utilisez.
On utilise beaucoup Discord pour discuter entre nous, savoir quand l'un et l'autre est disponible ou autre. Perso, en tout cas, je suis une grande fan de Notion. Donc, okay. En termes de knowledge, je trouve que c'est un très bel outil. Donc, voilà, il y a eu toute une phase d'organisation et de reformalisation parce que, effectivement, on est une petite équipe, mais il y a tout un enjeu, effectivement, de structuration de tous nos documents, de toute notre manière de faire, de notre gestion de projet, des CRM. Donc, voilà, là moi je suis à fond derrière Notion et j'en exploite chaque jour. En fait, j'aime bien cet outil dans le sens où il y a un côté où il me rappelle un peu Pandasuite sans prétention vis-à-vis de nous, enfin nous, dans quel sens, je sais pas trop, mais dans le sens où c'est une page blanche. En fait, parfois on arrive sur l'outil et s'il n'y a pas les templates, c'est vrai, il y a le côté page blanche. Et en fait, c'est au fur et à mesure qu'en parcours et en fonction des usages qu'on tire un fil et qu'en fait on se rend compte qu'il est indispensable pour pas mal de choses. Donc il y a ça. Après, côté dev, côté issue, bah il y a du GitHub à fond. Voilà à peu près pour les.
Comment vous gérez par exemple votre support client, des choses comme
Scout.
Ça.
HelpScout. Ouais. Ok. Après, on a des ponts entre les différents outils. On a un Slack aussi qui permet de gérer les notifs.
Ok. Vous utilisez Slack et Discord?
Ouais, mais on ne discute pas sur Slack. Slack, ça va être plutôt pour des notifs. Pour,
ok, c'est marrant, c'est un usage intéressant.
Ouais. Avant, on était sur Slack. Discord, on l'a adopté à partir du moment où on s'est mis en remote. Parce que le côté room, le côté vocal. Et savoir que... Souvent, on se fait même des sessions où on est là, mais on n'est pas là. Et où on sait que les autres sont là, ils sont en train de papoter, et on arrive, on fait un petit coucou. C'est ce côté très sale.
On rentre, on sort.
C'est ça.
Ouais, non, ça, c'est un truc qui sont très, très bien réussi, je trouve, Discord, que Slack a beaucoup trop tardé à faire. Et en plus, ils ne l'ont pas fait de la même manière. Donc, c'est Slack, ils sont un peu toujours dans ce paradigme, je trouve, d'appel, quoi. C'est-à-dire, tu peux déclencher un appel avec tous les gens qui sont dans un channel, mais bon, c'est un appel, quoi. C'est pas genre le vocal,
Là, il y a le côté, bah, je t'attends, enfin, je suis là.
Connecté. Tu viens quand tu veux.
Tu viens quand tu veux.
Très visuel. Et sur ce Discord, il y a aussi vos utilisateurs ou que vous?
Non, il n'y a que nous. Il n'y a que nous. On en a fait vraiment un espace d'équipe pour bien segmenter les choses.
Est-ce qu'il y a un autre? Est-ce qu'il y a un endroit où les gens chatent ou...
Justement, ça fait partie de la discussion quand je te disais que la volonté était de décentraliser la relation utilisateur. Justement, on est en train de réfléchir aux outils, à la manière de mettre ça en forme. Et il y a différentes pistes et différents outils.
À toute fin utile, je rappelle qu'il y a un channel Panda Suite sur le Slack de NoCode France.
Exactement, avec une actualité brûlante à chaque fois. Et voilà. En tout cas, je fais le relais des différentes infos. J'ai des utilisateurs aussi qui font des petits coucous régulièrement, donc il ne faut pas hésiter. On aura plaisir à discuter là-bas.
Cool. Bah, écoute, on l'avait lancé, je crois, après le live qu'on avait fait ensemble, justement.
Oui.
Et puis, ce podcast aussi sera l'occasion de rappeler ça aux gens. Je mettrai le lien dans les notes. C'est hyper intéressant. Juste pour finir, j'ai une question que je me posais, je vais la dire comme je l'ai notée et comme je l'ai dit, mais est-ce que c'est difficile de faire un app builder, tu vois? C'est une question un peu bête, tu vois, mais j'ai envie de savoir comment vous le vivez humainement, tu vois, parce que je trouve que c'est un très beau challenge. Normalement, c'est un vrai challenge, quoi, tu vois.
C'est pas le produit le plus simple. Pense que il y a des choses plus simples, même dans la gestion du produit, l'évolution, les choix techniques. Il y a des voies plus simples. Après, c'est un produit coup de cœur. En fait, il y a un côté où vraiment c'est un produit qui nous plaît, et je pense aussi le fait qu'on ait choisi d'être une petite équipe, qu'on est passionné, que c'est notre bébé depuis le début, c'est ça aussi qui donne l'énergie de faire évoluer les choses et de tous les jours travailler dessus. Et voilà, il y a un champ des possibles qui est incroyable. Il y a des très belles réalisations. Enfin, j'en ai pas forcément parlé, mais récemment, il y avait des profs spécialisés dans le handicap qui nous disaient utiliser Panda Suite pour créer des supports pour justement simplifier la communication et l'apprentissage de certaines notions. Il y a plein de projets différents, et en fait c'est ça qui est passionnant au quotidien. C'est-à-dire que, alors oui, ça va être en termes de développement technique, ça demande pas mal de ressources, ça demande pas mal d'énergie, mais ça permet de donner vie à de tellement belles histoires, aussi bien dans les grands groupes que dans des acteurs indépendants, des petites structures, des organisations, que franchement c'est ça qui nous réjouit au quotidien.
Moi, je pense que doit y avoir un truc, tu vois, un peu c'est pareil, que ce soit pour les éditeurs ou pour les gens qui forment aussi. C'est ce truc de voir que les gens, à la fin, de voir ce qu'ils font avec, quoi. Tu vois, et moi, j'ai aussi un peu cette satisfaction, du coup, un deuxième intermédiaire, tu vois, après les éditeurs d'outils, mais de voir ce que les gens y font après avec Airtable ou quelque que ce soit, tu vois. Enfin, ça me fait hyper plaisir, tu vois, parce que je me dis, bon, on les a aidés à quelque chose, on leur a donné un moyen, quoi. Et nous, c'est juste en les formant, vous, c'est carrément en proposant l'outil. Mais je trouve ça assez satisfaisant. Et puis, tu vois, quand tu vois des gens qui font des trucs auxquels tu n'aurais pas pensé, ou ça, c'est assez cool, quoi.
Ouais, effectivement. Et je pense que un des témoignages les plus gratifiants, c'est quand quelqu'un vient nous voir et nous dit, vous m'avez donné confiance et vous m'avez permis de me dire que je pouvais le faire et d'aller de A à Z. Et voilà, ça, c'est hyper... Et c'est surtout que, en plus, vu que c'est libre à la créativité, on est autant responsable que la personne qui a eu l'idée. Et voilà, nous, on a juste mis en place les blocs et c'est la créativité. Et
ah oui, clairement. Voilà. Et est-ce que tu as des petites choses que tu voudrais nous dévoiler pardon, de votre roadmap, peut-être des choses, voilà, la feuille de route, qu'est-ce qui va arriver, c'est quoi le futur de Panda Suite?
Alors, le futur à court terme, on est en train de travailler sur une nouvelle version de Panda Suite Studio qui devrait être disponible, on n'en a pas du tout parlé, mais qui devrait être disponible d'ici quelques jours, quelques semaines, voilà, qui va simplifier encore l'expérience utilisateur. Dans nos actualités à nous, on va partir au South by Southwest
à Austin,
exactement.
Au Texas.
Voilà, donc on va aller faire un petit tour sur les innovations là-bas et voir ce qui s'y passe. Donc ça va être rigolo. Et voilà, après nous, notre roadmap, elle est, enfin bon, il y a plein de choses qui se passent en ce moment en termes d'innovation. Il y a beaucoup de autour de l'AI, autour de, enfin, je trouve qu'on est une phase hyper excitante, même au-delà de Panda Suite, sur tout ce qui va bouger. Donc, nous, on a encore plein de composants à développer. Et de toute façon, nous, on a notre socle, on a tout ça, et on va enrichir de plein de fonctionnalités qui vont répondre aux différents besoins des utilisateurs.
Trop bien. C'est quand, le South by Southwest?
C'est en mars.
Ok, c'est mi-mars. Ouais, donc c'est bientôt, ouais.
Ouais.
Bah écoute, moi, ce que je te demande, parce que je rêve d'y aller depuis très longtemps, c'est un truc... Et il faudrait que tu viennes après, enfin si tu veux, hein, c'est une proposition, mais tu pourrais venir à un apéro, tu vois, les premiers mercredis du mois, et faire une petite 5 minutes, tu vois, si tu veux, enfin, nous dire comment c'était, ou quelques photos, je sais pas, tu vois, parce que c'est un événement pour les gens qui connaissent pas, c'est un événement qui est assez connu dans la tech et l'innovation, mais pas que, parce que c'est aussi un événement culturel, si je dis pas de bêtises. Ouais. Et en fait, moi, ça m'a toujours intrigué parce que ça se passe au Texas, mais dans la ville peut-être la moins texane, comme on dit, en tout cas, qui est Austin, qui est apparemment une ville très alternative, enfin, en tout cas assez alternative, et ça a l'air d'être un super moment. Il y a plein d'histoires, en fait, dans la mythologie de la tech qui sont passées là-bas et tout. Donc,
Nous, ça va être la première fois. Donc,
Et pour, juste par curiosité, pourquoi, enfin, est-ce que vous avez été invité? Est-ce que vous avez eu envie d'y aller?
On a envie d'y aller.
C'est quoi qui vous a attiré là?
Parce que c'est en lien avec notre philosophie. Okay. Parce que, voilà.
Peut-être un peu artistique, créatif.
Exactement. Créatif, culturel, innovation, tech. Enfin, voilà. Je pense que là-bas, ce qu'on nous dit, c'est que ce que vous allez voir là-bas, c'est des choses qui arriveront en France 3, 4, 5 ans plus tard. Et qu'en général, il faut un peu de temps pour digérer toutes les informations qui arrivent. Donc voilà. Non, mais avec grand plaisir pour venir, pour échanger. Je proposerai à Benjamin et à Nicolas qui viendront avec moi. Voilà.
Cool, bah écoute, avec plaisir. Non mais c'est intéressant parce que je pense qu'en disant ça, alors les gens qui connaissent pas, voient pas forcément, mais tu vois, je pense que c'est un truc où j'ai jamais entendu parler de cet événement dans la communauté NoCode, tu vois. Enfin, bon, ça fait que quelques années, tu vois, que tout ça, qu'on a toutes ces discussions, etc. Mais j'ai jamais entendu de gens, d'éditeurs ou même de gens de la communauté qui y soient allés. Il y en a peut-être, hein, d'ailleurs, ils me diront. et tu vois, je pense que ça illustre bien maintenant, tu vois, là on est à la fin de cette discussion, tu vois, ça illustre bien, je pense, votre positionnement quelque part, enfin, j'aime pas trop ce mot, tu vois, mais un peu votre état d'esprit, votre mood, tu vois, pour utiliser un mot anglais, quoi, mais ce côté un peu créatif, tu vois, maintenant tout ça, voilà, fait complètement sens, tu vois.
Ouais, créatif, mais appliqué à tous les usages, c'est sûr que...
Ouais, mais... enfin, tu vois, peut-être cette volonté de donner, sans parler, tu vois, forcément des utilisateurs de Panda Suite, tu vois, mais en tout cas de vous, comment vous faites les choses, tu vois, si pas forcément d'avoir un peu des partis pris, des convictions, tu vois, c'est un peu ça le... Enfin, pour moi, c'est un petit peu ça, la création et l'art aussi, c'est pas juste essayer. C'est un peu, je mettrais ça un peu à l'inverse du côté très start-upper que j'aime pas, d'essayer de faire un truc qui marche pour tout le monde, que le but, c'est de faire un gros truc, tu vois, mais sans âme, sans cœur, quoi.
Ouais. Non, mais c'est tout à fait en lien avec la philosophie. Ça fait des années qu'on a envie d'y aller, donc on va aller faire un tour. On s'est dit que cette année, c'était la bonne raison. Mais oui, effectivement, et juste un mot aussi, parce que tu parles du no-code, de la communauté no-code. C'est vrai que c'est une communauté qui est top. Enfin, moi, j'ai plaisir, et là, de le dire au micro, je te l'avais déjà dit quand je t'avais croisé la dernière fois, mais je trouve que c'est une... On a de la chance d'avoir cette communauté-là. Il se passe pas mal de trucs en France. Et voilà, il y a un bon état d'esprit, il y a pas mal d'échanges. Donc voilà, sinon, on peut contribuer à faire des retours d'expérience sur l'événement auquel on va ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, c'est un plaisir d'en faire partie.
J'ai une dernière question. C'est toujours comme ça à la fin. Il y a toujours 12 dernières questions. Mais parce qu'après, en plus, j'aurai la vraie dernière question. Mais non, c'est parce qu'en fait, je pense à ça, tu vois, je fais des connexions au fur et à mesure. Mais donc, tu fais partie du SFPN, si j'ai pas de bêtises.
Oui. Mmh.
Et donc, je sais qu'au SFPN, il y a un groupement, un collège, je sais plus comment ça s'appelle, un collège, ouais, je crois, des éditeurs oui. français, tu vois.
Ouais.
Qu'est-ce que tu dirais dessus? Je veux pas poser une question bizarre, tu vois, mais parce que moi, j'ai l'impression que vous êtes un peu, je vais le dire moi, tu vois, comme ça, mais tu vois, vous êtes un peu différent, tu vois, d'autres outils français.
Mais je sais pas. Tu entends?
Ouais. Enfin, non, mais tu vois, c'est. Et du coup, je me pose la question de comment ce groupement fonctionne. Tu vois, est-ce que. Je sais pas, tu vois, juste le seul que j'ai en tête, c'est Timetonic, parce que j'avais échangé avec Jean-Michel.
Ouais.
Et par ailleurs, je trouve que ce qu'ils font est très bien, tu vois. Mais pour moi, c'est quand même très différent, quoi. Un jour, quand même, faudrait que d'ailleurs je l'invite dans ce podcast pour qu'on échange. Mais je sais
oui.
pas.
Oui. Alors, nous, effectivement, on est membre du SFPN. À vrai dire, on suit plus qu'on est actif. On aurait plaisir à être beaucoup plus actif dedans, mais il y a une réalité de temps et voilà. Donc,
ces fameuses 24 heures. Donc,
il paraît, voilà. mais non. Enfin voilà, il y a plein de choses. Je pense qu'il y a plein de choses entre effectivement nos codes France et le SFPN qui sont aussi à orchestrer et à mettre en place. Je sais que le Cube, tout le monde organise vraiment beaucoup de choses et met en place ça. On l'a suivi un peu loin pour être tout à fait honnête. Voilà, donc j'ai pas de retour particulier à faire, si ce n'est que c'est des bonnes initiatives et qu'à partir du moment, ça donne de la visibilité à tout le monde. Et voilà, ça c'est okay. ça c'est top.
Et parce que du coup, enfin c'est d'accord. Non mais parce que du coup, tu disais que vous faisiez vos contenus en anglais. Vous
oui.
avez des utilisateurs à l'étranger.
Ouais, tout à fait. On a des Canadiens, on a je parlais du Brésil, on a en Asie, on a un peu partout. Ouais, on a fait le choix depuis le début d'avoir un outil en deux langues et de produire tous les contenus en français et en anglais et de garder le français parce que c'est important pour les Français de. Enfin voilà, et on est français donc. Voilà. Donc c'est un double challenge au niveau de la rédaction de contenu et voilà, par contre les vidéos YouTube, on a fait le choix, on a abandonné le français et on a des sous-titres français automatiques. Mais
ouais, non, je comprends. Et du coup, ça légitime aussi d'autant plus d'aller à un événement international comme South by Southwest.
Ouais.
Mais ouais, non, c'est intéressant, tu vois, parce que dans la communauté, on a plusieurs exemples d'éditeurs qu'on va considérer français, tu vois. On a par exemple WeWeb qui sont complètement tournés vers je vais dire les États-Unis, mais bon, enfin, l'international, mais l'anglais.
Ouais.
Et alors, peut-être je vais dire une bêtise, mais tu vois, par exemple, Timetonic, j'ai l'impression qu'ils sont très franco-français, ce qui serait logique par rapport à leur histoire et au fait de. Bah, ils sont construits avec voilà, les PME et tout, et c'est d'ailleurs une de leurs forces, je pense, tu vois, c'est d'avoir construit le produit avec leurs utilisateurs. Mais donc, c'est très ancré, quoi, dans un. Alors, peut-être, je vais dire, peut-être, ça se trouve, leur produit est disponible en anglais, donc les utilisateurs anglais, donc je sais pas. Mais tu vois, c'est. Du coup, vous êtes un peu entre les deux, peut-être, j'ai l'impression, un peu plus, peut-être, tourné vers l'international. Enfin, je sais pas, non, mais quand je dis ça, c'est pas. C'est une belle ambition aussi, tu vois.
Oui, oui, non, bah après, on ne peut pas non plus se mettre partout, voilà. Mais ouais. En tout cas, on a un outil qui est disponible et les ressources permettent à toute personne qui se trouve dans n'importe quel pays d'être en capacité de monter en autonomie. Et nous, on fait le support en français et en anglais. Donc ça, c'est chouette. On a des utilisateurs en Angleterre, on a des utilisateurs en Allemagne, voilà, on a beaucoup d'Europe et aussi voilà, pas mal de Canada, États-Unis, Brésil, voilà. Mais c'est toujours, voilà, c'est un vrai parti pris et ouais, de garder les deux parce que pour moi, la France a ses spécificités, donc c'est important aussi de proposer des contenus et un accompagnement pour la France et on est français et voilà, et de s'ouvrir à tout le monde.
Bien sûr. Super. Bon, bah écoute, merci beaucoup pour cet échange.
Alors, merci à toi.
Enfin, la vraie dernière question. Où est-ce qu'on peut vous suivre? Est-ce que en dehors des contenus que vous publiez par rapport à Panda Suite, vous partagez des choses un peu peut-être sur votre aventure entrepreneuriale ou je sais pas, tu vois, un petit peu toi, personnellement,
pas,
et puis...
Pas beaucoup, mais on va le faire de plus en plus. Voilà. C'est une vraie volonté de justement communiquer plus pour pas être juste derrière des news produits ou des choses comme ça, mais raconter l'histoire. Donc je pense que notre déplacement aux États-Unis sera aussi une occasion et on va le documenter. Et voilà, nous on parle de plus en plus sur LinkedIn et sur Twitter. Je dirais que ce sera les deux canaux de communication les plus adaptés. Donc en tant que Panda Suite et en mon nom aussi, voilà.
Cool, bah, tu me donneras de toute façon les liens et puis on mettra tout ça dans les notes, comme
c'est
d'habitude.
Mmh.
Et bah écoute, merci beaucoup.
Un grand merci
pour cet
à toi.
Échange.
C'était très agréable.
Salut.
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 Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout. Ça fait plaisir. J'espère que vous avez apprécié cet échange. Pour moi, c'était vraiment passionnant, à part évidemment les petits soucis techniques. Juste pour l'anecdote, donc on a enregistré ça dans un studio qui était un vrai studio de podcast avec du vrai matériel, mais qu'il faut opérer soi-même. Voilà, c'est un concept assez intéressant d'ailleurs, voilà, dans le 18e vers Pigalle. Si ça vous intéresse, je vous donnerai les coordonnées. Mais sauf que voilà, moi, je suis pas ingénieur du son, et donc en fait, malgré que ce soit du matos ou il y avait il m'avait envoyé évidemment tout un peu la doc, j'avais regardé une petite vidéo YouTube et tout pour me familiariser, mais je sais pas, il y avait des réglages chelous, j'ai pas bien compris ce que j'ai fait, et donc voilà, donc on a fait cette petite pause, mais bon voilà, après le son était encore mieux même, j'ai envie de dire, parce qu'il y avait pas tous ces trucs de compression, etc. Donc voilà, bref, ça c'était pour la petite anecdote, hein, donc voilà, comme quoi quand on sait pas s'en servir, il ne faut pas utiliser du matériel trop professionnel, trop exigeant. Ça pourrait tout à fait se transposer d'ailleurs aux outils no-code, utiliser des outils no-code qui sont adaptés à votre niveau. Bref, tout ça pour vous dire que je suis très content jusqu'à ce 103e épisode. Le 104e épisode, c'est un épisode un petit peu spécial que j'ai enregistré en live, mais c'est un vrai épisode de podcast, hein, mais c'est un échange que j'ai enregistré dans le cadre de la matinale des Ops avec Taha de EdenAI, qui est un agrégateur d'API. Voilà, et puis après, on se retrouvera pour un autre épisode, pour l'épisode 105. Je ne vous le dévoile pas tout, mais il va y avoir plein de gens intéressants, comme d'habitude. Et puis, merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez des idées de gens, je vous le dis toujours, hein, et vous ne le faites pas beaucoup d'ailleurs, mais n'hésitez pas à me suggérer des gens que je devrais interviewer. Et puis, voilà, je vous dis à très bientôt. Allez, salut.